Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc, texte de la liturgie catholique romaine pour la fête de Noël. Et voici qu'en ces jours-là, César Auguste fait paraître un décret pour recenser tout le monde habité. Ce recensement est le premier quand Quirinius est gouverneur de la Syrie. Tous vont se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monte depuis la Galilée, de la ville de Nazareth, vers la Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, du fait qu'il est descendant de la famille de David. Il va se faire recenser avec Marie, sa promise, qui est enceinte. Et voici, alors qu'ils sont là, que les jours de son enfantement sont accomplis. Elle enfante son fils, le premier-né. Elle l'emmaillote et le couche dans une mangeoire. Car dans la salle commune, ce n'est pas une place pour eux. Dans cette contrée, il y a des bergers qui vivent aux champs et qui veillent les veilles de la nuit sur leurs troupeaux. Le messager du Seigneur se présente à eux, et la gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Un grand frisson sacré les fait frissonner. Le messager leur dit :
« Ne soyez pas troublés, car voici, j'ai pour vous un message de bonheur, une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur vous est né. C'est le Messie Seigneur. » Et voici ce qui vous servira de signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté, couché dans une mangeoire.
Soudain, avec le messager, une multitude de messagers célestes se mettent à louer Dieu en disant
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix chez les humains vivant de bonté. »
Et voici, quand les messagers s'éloignent d'eux pour les cieux, que les bergers se disent entre eux.
Allons donc à Bethléem pour voir ce fait qui est survenu et que le Seigneur nous a fait connaître.
Ils partent et se hâtent et découvrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans la mangeoire. À sa vue, ils font connaître le fait dont on leur a parlé concernant ce petit enfant. Tous ceux qui les entendent s'étonnent de ce dont les bergers leur parlent. Quant à Marie, elle conserve tous ces faits et les retient dans la mémoire de son cœur. Les bergers s'en retournent, ils chantent la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils ont entendu et vu, exactement ce qui leur avait été adressé.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Quel merveilleux tableau que ce récit de Luc. On ne s'étonne pas qu'il ait inspiré bien des peintres. Un tableau où s'oppose en contraste la grandeur de ce monde et la petitesse de cet enfant. Quel est le message de cette naissance et quelle est l'actualité de ce texte?
Eh bien, nous sommes dans les deux premiers chapitres de Luc, qui forment les récits qui concernent l'enfance de Jésus. Alors que les récits évangéliques qui vont du baptême de Jésus à sa mort nous font faire une lente découverte de la personnalité de Jésus, les chapitres qui sont consacrés à l'enfance sont eux très différents. Ils nous présentent le mystère de Jésus, Messie, Fils de Dieu, tel que les premiers chrétiens l'ont compris après Pâques. C'est tout le mystère du ressuscité, en effet, qui illumine l'humble enfant Jésus et qui est illustré dans les faits qui donnent le sens de sa venue au monde. La naissance de Jésus est mise en parallèle avec celle de Jean le Baptiste. Après les récits des annonces divines à Zacharie et à Jean, la naissance est racontée en trois scènes. D'abord la description de l'événement, puis le sens de l'événement qui est révélé par les anges, enfin la transmission du message par les bergers. Ensuite, il y aura la purification de Marie et la présentation de Jésus au temple pour finir par le récit de la venue à Jérusalem de Marie, Joseph et Jésus et le recouvrement de Jésus au temple qui terminera donc les récits de l'enfance.
César Auguste fait paraître un décret pour recenser tout le monde habité.
Dans ce décor de la naissance, la grandeur de ce monde, eh bien, c'est l'empereur tout-puissant de l'Empire romain, Octave, petit-neveu et héritier du grand César, qui est surnommé Auguste, c'est-à-dire celui pour qui les dieux sont favorables. La grandeur de ce monde, c'est aussi ce recensement de tout l'univers, comme dit le texte, c'est-à-dire de l'immense empire romain qui recouvre alors toutes les terres connues autour de la mer Méditerranée. L'empereur romain d'alors se prétend lui-même Dieu. Des inscriptions qui ont été trouvées en Asie mineure et qui datent de l'an 9 avant notre ère comportent des traces de cette croyance.
Ce jour de la naissance du Dieu fut pour nous le commencement de nouvelles de bonheur qui nous viennent de lui.
Les empereurs romains se donnent en effet le titre de sauveur, comme l'indique encore cette inscription.
La providence divine a accordé aux humains ce qu'il y a de plus parfait, en nous donnant Auguste, qu'elle a rempli de force pour le bien des humains, et qu'elle a envoyé comme sauveur pour nous et nos descendants.
En face de cette grandeur mondaine, eh bien, nous trouvons un nouveau-né couché dans une mangeoire d'animaux, et qui n'aura d'autre visite que celle de pauvres bergers. Pourtant, c'est là la vraie grandeur. Cette naissance, inconnue des foules, est un message de joie pour tout le peuple de Dieu. Le ciel tout entier, tout le divin de l'univers, va chanter sa joie pour ce premier-né qui vient de naître. Chez Luc, le messager divin apporte lui aussi des nouvelles de bonheur. Voici, j'ai pour vous un message de bonheur, une grande joie. Le verbe grec qui est traduit par « j'ai un message de bonheur », c'est « annoncer un évangile ». En effet, le mot « évangile » signifie « message de bonheur ».
Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né, c'est le Messie Seigneur.
Dans la Bible de Moïse, traduite en grec, le titre de sauveur est surtout donné à Dieu. Mais Luc, qui est nourri de ce que les chrétiens savent avec certitude depuis la résurrection, donne déjà à l'enfant le titre de sauveur. Son nom d'ailleurs n'est-il pas Yeshua, qui signifie Dieu sauve, Yeshua qui a été francisé en Jésus. L'annonce à Joseph, dans le récit de Matthieu, dira de Jésus qu'il sauvera son peuple de ses fautes. Face aux prétentions des empereurs romains d'être divins, ce sauveur est appelé Christ Seigneur. Or, dans la Bible, le mot Seigneur, Kyrios en grec, Adonai en hébreu, est le nom qui est donné à Dieu, Seigneur de l'univers. Mais les premiers chrétiens donneront ce titre à Jésus lui-même. On en trouve l'écho dans la prédication de Pierre le jour de la Pentecôte.
Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous aviez crucifié.
Et l'apôtre Paul reviendra souvent sur ce titre dans ses lettres. Écoutons ce qu'il dit dans la première lettre aux chrétiens de Corinthe.
Nous savons qu'il n'y a aucun idole dans le monde et qu'il n'y a d'autre Dieu que le Dieu unique. Bien qu'il y ait des prétendus dieux au ciel et sur terre, plusieurs dieux ou plusieurs seigneurs, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes.
Autre contraste, en face de l'univers, c'est-à-dire le monde habité qui est soumis à la souveraineté de César, eh bien nous avons l'humble cité de David, Bethléem. Cette Bethléem dont le livre biblique de Michée dit qu'elle est trop petite pour compter parmi les clans de Juda. C'est pourtant la cité qui vit naître le grand roi David. Eh bien dans cette cité, pas de palais ni de temple. L'enfant va naître dans une mangeoire d'animaux. Soit parce qu'il n'y a pas de place pour eux dans la salle commune, soit parce que la salle commune où s'entassent tous les voyageurs n'est pas une place, n'est pas un lieu pour accoucher. Les deux traductions peuvent être employées. Marie et Joseph sont peut-être hébergés dans une des grottes nombreuses qu'on trouve dans les collines autour de Bethléem et qui servaient d'habitation. Un appentis construit à l'entrée de la grotte était la salle commune. La grotte elle-même servant de caveau pour les réserves de nourriture.
Dans cette contrée, il y a des bergers qui vivent aux champs et qui veillent les veilles de la nuit sur leurs troupeaux.
Autour de Marie et de l'enfant, Luc ne signale que les bergers. À l'époque, les bergers sont de pauvres gens peu instruits, parce que leur profession les tient à l'écart de l'enseignement qui est donné à la synagogue le jour du sabbat. Eux, en effet, ils doivent ce jour-là garder les troupeaux, même si c'est un jour de repos. Ils ne sont donc pas instruits de toutes les minuties des préceptes de la Torah. L'enseignement, la Torah, qui est l'enseignement révélé par Dieu, la règle de vie divine. Et certains d'ailleurs considèrent les bergers comme malhonnêtes. C'est à eux qui ne peuvent jamais être témoins devant les tribunaux, que revient la mission d'être les témoins de la naissance de l'enfant. De la même façon que plus tard, ce seront des femmes qui seront les premières à voir le ressuscité et à en témoigner auprès des disciples. Or, les femmes, elles aussi, à l'époque, ne pouvaient être légalement des témoins. C'est donc à ces bergers que Dieu va faire connaître l'évangile de la joie, la naissance d'un petit humain qui sera sauveur. Plus tard, Jésus louera le Père d'avoir choisi des petits et des humbles pour leur révéler son mystère.
À l'instant même, il exulta sous l'action de l'Esprit-Saint et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. » Le messager du Seigneur se présente à eux, et la gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Un grand frisson sacré les fait frissonner.
Eh bien, Luc utilise ici des clichés symboliques qui sont tirés de la Bible, celui du messager de Dieu et de l'armée céleste. Comme nous le faisons nous aussi, lorsque nous disons en termes imagés des choses plus spirituelles. Donnons quelques exemples. « Mon cœur est bouleversé ». Cela signifie qu'une chose nous atteint et nous perturbe. Je suis aux anges. Eh bien, cela veut dire qu'on est ravi. Cela tombe du ciel. Cela exprime qu'un événement arrive comme par miracle. L'important est, au-delà de l'image, dans le contenu du message. Or, le contenu ici, c'est un sauveur vous est né. Dans cet événement, le ciel et la terre se rejoignent. Dieu et l'humain communient.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix chez les humains vivants de bonté.
La gloire de Dieu, bien c'est la manifestation de sa présence. Le livre de l'Exode représente cette gloire sous la forme de nuées et de feu.
Moïse monta sur la montagne, alors la nuée couvrit la montagne, la gloire du Seigneur demeura sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. La gloire du Seigneur apparaissait aux fils d'Israël sous l'aspect d'un feu dévorant au sommet de la montagne.
Les manifestations éclatantes de la nature, le feu de l'orage derrière les nuages, sont ici un symbole de cette présence de Dieu qui est voilée à nos yeux. La gloire est faite de lumière. Ce n'est pas encore le grand jour de Dieu, ce grand jour qui désigne le moment où se trouvera enfin accompli définitivement le projet divin d'une communion de tous les êtres humains en lui. Mais c'est une étape sur cette voie, une lumière sur la route du règne de Dieu. Comme toujours, lors de la rencontre avec le divin, la réaction en est une de crainte, un frisson sacré. Et comme toujours, la voix divine invite à ne pas craindre, mais à faire confiance. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, avait dit le messager divin à la Vierge. Dieu n'est pas le Tout-Puissant qui terrifie, mais le Père Tout-Aimant. Et heureux celui, heureuse celle, qui saura reconnaître le signe donné par Dieu, la mangeoire d'un nouveau-né. Ce signe, en effet, est étrange. Autrefois, le croyant avait besoin de signes exceptionnels qui lui disaient alors la puissance de Dieu, le tonnerre, les éclairs, l'éruption d'un volcan. Maintenant, le signe d'un nouveau-né est au contraire très humble. Et il faut, pour le reconnaître, être sur la longueur d'onde du Dieu de Jésus. Malheureusement, notre longueur d'onde habituelle est celle des grandeurs de ce monde. Hier, ces grandeurs mondaines étaient César, l'Empire sans cesse élargi, le recensement pour mieux assujettir à l'impôt les peuples occupés. Aujourd'hui, ces grandeurs mondaines sont la science, la richesse, la force physique. La science qui repousse sans cesse les limites de notre connaissance de l'univers, une science informatique aux applications illimitées, des techniques de communication qui vont faire de la planète un village global. Mais aussi, grandeur de la richesse matérielle, les grandes fortunes, les multinationales, ces multinationales qui deviennent parfois plus puissantes que les États. Également, la grandeur de la force physique des humains et des États, la violence qui a envahi le sport jusqu'aux Jeux olympiques, la violence des guerres civiles, les armes nucléaires qui sont toujours plus sophistiquées pour détruire la création. Ces grandeurs mondaines sont-elles vraiment des sources d'espérance? Qu'apportent-elles en effet aux millions de réfugiés qui ont dû quitter leur patrie? Qu'apportent-elles aux jeunes de chez nous qui songent au suicide? Qu'apportent-elles aux malades chroniques qui sont seuls sur leur lit d'hôpitaux? La seule espérance qui fait véritablement vivre, c'est de se savoir aimer, afin d'apprendre à aimer à son tour. Or, l'amour vrai ne se vit que dans l'humilité. Écoutons ce qu'en dit François Varillon dans son merveilleux petit livre intitulé « L'humilité de Dieu ».
On ne peut regarder de haut quelqu'un à qui l'on dit « je t'aime ». Un regard qui signifie « je vaux plus que toi » ne peut pas dire « je t'aime ». Dieu est immensément grand, puissant. Mais sa grandeur est de pouvoir tout ce que peut l'amour, jusqu'à l'effacement de soi dans l'humilité du regard. Jésus nous la révèle quand il lave les pieds des siens. Son geste dit en vérité comment Dieu aime.
C'est toute l'humilité d'amour qui s'est révélée dans la vie de Jésus que Luc déjà nous dit dans cette naissance dans une mangeoire. C'est ainsi que le signe de Dieu se trouve dans un petit enfant qui est le fruit de l'amour. Le langage de la mangeoire sera bien sûr plus tard remplacé par celui du bois de la croix, le don que Jésus fera de sa vie par amour. Écoutons encore François Varillon.
Certes, Dieu est tout-puissant, mais c'est la toute impuissance du calvaire qui révèle la vraie nature de la toute-puissance de l'être infini. L'humilité de l'amour donne la clé.
Avec Jésus, le Dieu unique et trois fois saint ne se révèle ni dans la richesse, ni dans les honneurs. La gloire de Dieu n'est pas sa puissance infinie et écrasante de créateur de l'univers. C'est au contraire la profondeur de son amour, d'un amour sans limite. La gloire de Dieu est le don de son amour, et c'est dans ce don d'amour que Dieu nous donne sa paix. La vraie paix, est celle qui nous fait vivre de la bonté de Dieu. Et cette paix de Dieu s'installe dans les cœurs humains qui accueillent humblement sa bonté et qui en vivent. En cette nuit, la paix de Dieu trouve donc sa demeure en des cœurs de bergers humbles et accueillants. Paix sur terre aux êtres qui vivent de bonté, ou bien paix sur terre aux êtres qui sont l'objet de sa bonté. Les deux traductions se justifient. Dieu sera toujours fidèle, quoi qu'il arrive et quoi que nous fassions, si nous savons l'accueillir. Seul le Dieu qui se fait petit enfant peut nous amener à ôter nos masques de puissance et de richesse. C'est alors seulement que nous pouvons voir et découvrir l'amour dont Dieu nous aime. Et c'est alors, comme les bergers, que nous pouvons chanter gloire et louange à Dieu pour tout ce que nous aurons vu et entendu. Le Dieu maître et créateur des mondes se fait pauvre et vulnérable. Le Dieu Seigneur se fait serviteur. Le Dieu berger se fait agneau. Le Dieu Très-Haut se fait tout petit. Écoutons un beau texte de Jacques Loewe qui décrit cette grandeur unique qui est celle de Dieu.
Le soir de Noël, Dieu est entré dans le monde petit et nu. Il est l'ami des petits et des pauvres, ceux qui sont pauvres d'argent, mais aussi ceux qui sont pauvres de santé, les malades, ceux qui sont pauvres de relations, les humbles, ceux qui sont pauvres d'instruction, les simples, ceux qui sont pauvres d'orgueil, les doux, ceux qui sont pauvres même de qualité et de vertu, les pécheurs. En Jésus se rencontrent deux qualités rarement réunies en un même homme. Une grande exigence au nom d'un grand idéal. Soyez parfaits comme Dieu, votre Père, est parfait, et en même temps une bonté pleine de tendresse et d'encouragement dès qu'il voit une étincelle de bonne volonté dans une âme. Sa force est douce, sa tendresse énergique, son pardon ne pèse pas. La foi de Dieu et en Dieu n'entrera dans notre vie que si, à notre tour, nous acceptons d'être petits et dépouillés.
Oui, seule une Église servante et pauvre peut célébrer Noël. C'est déjà ce que l'apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe. Écoutons-le.
Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a chez vous ni beaucoup de sages aux yeux des humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de gens de noble famille. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort.
Tels doivent être les disciples de Jésus. Ce n'est en effet que si nous vivons au diapason de Dieu dans l'humilité de l'amour que Jésus sera vraiment le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs. Tel doit être le visage de la communauté des disciples d'aujourd'hui. Oui, le meilleur lieu pour célébrer Noël en vérité n'est pas forcément dans les splendides monuments religieux. Le meilleur lieu est celui qui est le plus proche de l'étable de Bethléem. Terminons avec un autre très beau poème que nous pouvons dire comme prière, une prière pour tous les enfants des pays en guerre, une prière pour les bébés orphelins des garderies de Chine, pour les enfants des prisons du Rwanda, pour tous les jeunes d'ici candidats au suicide, pour tous victimes de la folle grandeur des humains et de leur volonté de puissance.
Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. La peur, la haine, la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. J'ai vu des enfants s'en aller, le sourire aux lèvres et le cœur léger, vers la mort et le paradis que les adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer est-il nourri? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre.
ces maîtres de la terre, c'est un peu chacun, chacune de nous, lorsque nous écoutons la voix des grandeurs de ce monde. Alors, accueillons humblement la vraie bonté qui vient de Dieu pour qu'en ces jours, ce soit un peu Noël sur notre terre.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission La cassette audio, téléphonez au numéro 2-514-256-4110.
256-4110. Vous pouvez également nous trouver sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an, soit au feuillet, soit aux cassettes de l'émission.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, bon Noël, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.